au 98.5. Vous écoutez une émission spéciale sur les 30 ans de la tragédie à la Polytechnique.
Je pense que c'est plein humain. Il y a des familles qui sont touchées, qui se trouvent dans une pièce non loin d'ici. On a cru d'agir de façon plus humaine et puis de faire une mode temporaire puis que l'identification se fasse immédiatement ici, alors qu'ils sont sur le tête choc.
Voici Bernard Drainville.
Cette voix que vous venez d'entendre, c'est la voix d'André Tessier, qui était le grand patron des crimes contre la personne de la police de Montréal en 1989. Il est avec nous en studio. Monsieur Tessier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Vous, là, vous arrivez sur place, puis vous êtes... C'est vous qui prenez le contrôle de l'opération. Parce que vous, là, vous êtes le patron, je l'ai dit, des crimes contre la personne. Donc, c'est vous qu'on appelle quand il y a une prise d'otage. Puis là, au début, si je comprends bien, notamment quand j'écoute Yves Francoeur, il est possible qu'il y ait une prise d'otage à l'intérieur. On ne sait pas au début ce qui se passe exactement.
Non seulement c'est possible, mais le premier appel qui rentre au centre 911 à 17h14 précise que c'est une prise d'otage. Alors, c'est pour ça que j'ai été rejoint et je me dirige évidemment à la Polytechnique après avoir demandé à tous mes enquêteurs que j'avais gardé sur une opération particulière à Saint-Léonard suite à un meurtre commis antérieurement.
Alors, vous dites, rabattez-vous sur Poly, là.
C'est exact.
Et là, vous arrivez.
Là, j'arrive, je rencontre évidemment la personne en charge qui était le directeur du poste pour me faire débriefer ou me donne une certaine rétroaction.
Oui.
Et c'est là que je constate, parce que je vois mon collègue Pierre Leclerc à côté de moi, qui semble être dans un mauvais état. Alors, je lui demande, qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Alors, il me dit, sa fille fait partie des victimes. Alors, vous allez comprendre, j'ai été le rencontrer, tout ça. Enfin, là, il faut que je réagisse rapidement. Ça me prend, je réquisitionne d'abord un local pour notre poste de commandement.
Oui.
Je fais remplacer les policiers sur les lieux pour obtenir de leurs informations qu'est-ce qu'ils ont fait à Rennes-Vent, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et par la suite, je réquisitionne d'autres locaux, dont un local pour regrouper les médias, un local pour recouper les parents inquiets et le quatrième local pour faire une morgue temporaire, puisqu'il y avait évidemment beaucoup de décès. Alors, évidemment, il faut que j'organise rapidement avec mes collègues d'un plan d'action.
Oui.
Et là, on assigne les tâches aux enquêteurs qui sont venus me retrouver à la Polytechnique. Alors, une des premières tâches que j'ai confiées, ça a été à des enquêteurs de faire le tour de tous les locaux de la Polytechnique, et laissez-moi vous dire qu'il y en avait beaucoup, plus de 450. Et notre crainte, c'était de voir des personnes blessées ou mortes qui s'étaient enfermées dans un local et qui étaient en train soit d'agoniser ou... Enfin, on a fait tous ces locaux-là. Heureusement, on n'a pas trouvé d'autres.
Mm-hmm.
Assigner des enquêteurs aux 6 scènes de crime. Des enquêteurs...
Il y avait 6 scènes de crime?
6 scènes de crime.
Ah oui! Il y avait la
C-230, la première salle qui a fait séparer les hommes des femmes.
Oui.
Il y avait le corridor du deuxième étage.
Oui.
Il y avait le local des finances qui était le B218.
Oui.
Ensuite, la cafétéria.
Oui.
Le corridor du troisième.
Photocopieuse, c'est ça?
Non, photocopieuse, c'est au deuxième.
Deuxième, OK.
Au troisième étage, il y a eu d'autres blessés. Et finalement, le B311, qui est la dernière salle.
Voilà. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas réalisé qu'il y avait 6 scènes de crime. Les parents, là, racontez-nous, là, comment... Parce que là, il faut accueillir les parents. Ils essayent de rejoindre leur fille. Ils n'ont pas de nouvelles de leur fille. Et là, il y en a certains qui vont apprendre que leur fille fait partie des victimes, là.
En effet. Mais cette partie-là, je dois vous dire qu'il fallait que je délègue à des personnes. Alors, j'ai nommé un autre officier de direction pour cette tâche-là, comme un autre officier de direction pour regrouper les médias dans un autre local.
D'accord.
Et où il y avait la morgue temporaire, bien évidemment, à un certain moment donné, on a fait venir un embaumeur pour qu'il reconstitue le visage de certaines jeunes filles avant que le parent vienne les identifier. Ça n'avait pas de bon sens.
Oh mon Dieu.
Alors, il a fallu aussi assigner d'autres enquêteurs dans les hôpitaux pour savoir quels étaient les blessés, voir leurs conditions et tenter d'obtenir des informations de leur part, ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils avaient vu. Parce qu'il faut vous dire qu'au tout début, la rumeur, selon certains étudiants, c'est qu'il y avait un deuxième suspect.
Oui.
dans lequel il avait vu une arme chromée dans la ceinture. Alors, évidemment, nous, nos démarches d'enquête devaient se faire comme dans n'importe quel autre homicide, au cas où on arrête cet individu-là et qu'on le traduise devant le tribunal ultérieurement.
Exact, exact. Là, ce qu'il faut dire, c'est que dans les semaines qui vont suivre la tragédie, c'est vous qui êtes chargé de l'enquête.
Exact.
Là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bon, d'abord, évidemment, le lendemain, on a fait les démarches en cherchant à partir de l'arme où elle était enregistrée, qui l'avait demandée, etc. Et c'est de même qu'on a remonté à Marc Lépine.
Oui.
Il avait fait une demande d'acquisition 3 mois avant l'événement. Et il avait acheté l'arme, le Ruger 223, 2 semaines avant l'événement. Et la journée, la veille de l'événement, il avait loué un véhicule au complexe Desjardins. Évidemment, pour transporter son arme à la Polytechnique. Et évidemment, on avait d'autres... on a arrêté un suspect, à un moment donné, qui avait été identifié par des étudiants. Il a été conduit à nos bureaux et j'ai assigné d'autres enquêteurs, évidemment, pour faire l'interrogatoire en question.
Il n'y avait rien à voir là-dedans?
Non, il n'y avait rien à faire là-dedans. C'était un professeur de la Polytechnique qui était habillé d'une façon particulière.
D'accord, d'accord. L'enquête sur Marc Lépine, non?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Évidemment, ça a été une tâche confiée à certains enquêteurs qui ont remonté, on a tenté d'obtenir le plus de renseignements possibles sur la vie de Marc Lépine,
oui,
pour connaître ses motivations, pourquoi il en était arrivé là, etc. Et j'ai même fait venir à nos bureaux un psychiatre avec lequel on a échangé, on lui a transmis toutes les informations qu'on avait ainsi que toute la documentation. Et à ce moment-là, il a été convenu parce qu'on ne voulait pas publier la lettre de Marc Lépine.
Dans laquelle il s'en prenait aux féministes, puis il disait que c'était...
Entre autres.
Oui, voilà.
Mais lors des conférences de presse durant la nuit et le lendemain, moi, je l'ai précisé, qu'il visait les féministes. J'avais pris, autrement dit, un extrait qui était dans la lettre. Mais avec le psychiatre, il était entièrement de notre avis. Il ne fallait pas publier cette lettre-là intégralement parce que ça pouvait... enclenché chez certaines personnes vulnérables sur le plan de la santé mentale.
Qu'est-ce que vous avez découvert en résumé sur Marc Lépine? Vous parlez de ses motivations, pourquoi il avait fait ça? Si on voulait résumer...
En fait, c'était un solitaire. Il avait beaucoup d'acné. Il fréquentait pas personne. Il avait pas beaucoup d'amis. Quelques-uns seulement des hommes. Il n'y avait pas eu d'amis de filles. Et sa sœur, Nadia, le ridiculisait souvent. Lorsqu'elle amenait ses copains chez elle, elle ridiculisait Marc. À un tel point qu'à un moment donné, il avait creusé dans la terre un trou, puis il avait mis la photo de Nadine, puis il l'avait enterré. Où il avait appris à tirer, c'était chez un de ses oncles qui demeurait sur une ferme, un ancien militaire. Et jeune, il avait pratiqué à tirer. Alors, c'est pour ça que Marc Lépine... savait tirer. Oui.
Il avait été aussi victime de violence, Marc Lépine.
Oui, jeune, à ce qu'on a appris, il y avait eu de la violence au niveau de la famille, évidemment.
Avec le recul... André Tessier. Mettons, aujourd'hui, on agirait comment? André Tessier, le grand patron des crimes contre la personne.
D'abord, après cet événement-là, évidemment, c'était, comme on l'a précisé antérieurement, c'était la première fois qu'un tel événement survenait, une tuerie de masse dans une institution scolaire.
Oui.
En Amérique du Nord. Alors, évidemment, la police n'était pas préparée à ça. Parce qu'il n'y avait jamais eu de tels événements. Puis personne n'aurait pu le deviner. Mais cependant, après cet événement-là, on a monté un cours pour l'ensemble des policiers sur l'intervention à haut risque pour intervenir lorsqu'il y avait une fusillade. Il faut faire la distinction entre une fusillade et une prise d'otage.
Oui, bien sûr.
Parce qu'une prise d'otage, c'est un criminel qui prend certaines personnes en otage comme garantie. Il ne les abat pas, c'est sa garantie, c'est sa police d'assurance.
C'est sa monnaie d'échange, ben oui.
Alors, il faut faire la distinction entre les deux. Mais lorsqu'une fusillade, comme à la Polytechnique, c'est une intervention à haut risque, et, évidemment, c'est un protocole différent de celui d'une prise d'otage. Et on a pu voir avec ce qui est arrivé à l'Université Concordia,
oui,
avec M. Fabricant.
Oui.
Les policiers sont intervenus de façon très efficace et ça a été la même chose au Collège Dawson.
Mm-hmm.
Alors,
c'est un peu les leçons. Les interventions à Concordia et à Dawson, c'est les leçons qu'on tire de ce qui s'est passé à Poly. Notre manière d'intervenir.
Exact.
En terminant, je m'adresse à André Tessier. L'humain, pas le policier, l'humain. Est-ce que lui est resté marqué par ça?
Je n'ai pas eu de problème psychologique. Cependant, vous allez comprendre que je pense à ces événements-là régulièrement, notamment aux dates d'anniversaire où les journalistes souvent m'appellent pour, oui, obtenir des informations, et ce qui est peut-être un peu ma soupape. Le fait d'en parler fréquemment, faut probablement faire sortir le trop-plein. Mais aussi, il faut admettre que pour travailler dans une section des crimes majeurs où on enquête les homicides,
mmh,
de façon régulière, évidemment, il faut se mettre une certaine carapace. Évidemment, nos sentiments sont là parce que quand je suis rentré à Polytechnique, j'avais deux jeunes enfants, une fille et un garçon. D'ailleurs, la jeune fille est allée à l'université ultérieurement. Alors, j'ai vu tout de suite que ça aurait pu être ma fille une date, mais ultérieure. Ouais. Évidemment, comme policiers, nous sommes des êtres humains d'abord et avant tout, mais lorsqu'on a des fonctions de cette nature-là, si on ne sait pas mettre de côté nos sentiments, on ne pourra jamais agir d'une façon efficace et selon les règles de l'art.
Je parlais avec André Tessier, le chef de la division des crimes contre la personne au SPVM en 1989. Vous avez l'air d'un bon monsieur, M. Tessier.
C'est réciproque, M. Drainville.
C'est gentil. Bonne chance pour la suite des choses. Après, merci, la pause, on va prendre vos appels. Où est-ce que vous étiez en 1989, le 6 décembre? Le souvenir que vous avez, l'émotion que ça inspire chez vous. Si vous avez le goût de parler, de me dire ce que ça représente pour vous, le crime de Poly, le drame de Poly, 790-9850, 989-85 par texto, Drainville à commercial 985-FM.ca. Tout de suite après la pause.